Metro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Mes amis, bienvenue place du marché pour fêter, oui, fêter ensemble un bel anniversaire en même temps qu'une véritable renaissance, on peut dire ça, puisque nous célébrons les 50 ans du guide jaune. Ah oui, eh oui, le guide jaune. Et le guide jaune, vous savez ce que c'est? Je veux parler du Go et Millau, que les Français connaissent bien, puisqu'il faut, il fait entièrement partie de la vie des gourmets, des Françaises et des Français de ma génération, et aussi de ceux qui sont nés après, hein, il y en a quelques-uns quand même. Et pour fêter la belle maturité de ce tout nouveau quinca, je me suis entouré du sommet de son équipe dirigeante, avec présent Jacques Bally, jeune quinca lui aussi, et jeune président du Go et Millau. Du Go et Millau. Bonjour Jacques Bally.
Bonjour Vincent.
Hein, jeune quinca, comme le guide quoi, un peu.
Exactement, hein, j'aurais pu fêter mes 50 ans en même temps que le guide. Hein. J'ai pris ma présidence ou la présidence en ce début d'année. Je suis du 1er janvier pour mon anniversaire.
Eh ben voilà,
donc voilà, tout était parfait.
On
les planètes étaient alignées.
Et en face de vous, Marc Esquiré, le directeur des guides. On va voir pourquoi dans un instant, parce qu'on parle souvent du guide Go et Millau, mais c'est devenu... Il a fait des petits, ce guide. Et Marc Esquiré tient les rênes depuis un bout de temps. Bonjour Marc.
Bonjour, bonjour à tous.
Plus de 20 ans, je crois. Hein,
vous êtes rentré au guide en 96 ou 17, quelque chose.
Ah ouais, comme quoi, hein, le temps passe vite. Hein. Donc, autrement dit, vous êtes pratiquement né dans votre carrière avec le Go et Millau. Enfin, vous n'avez pas commencé avec le Go
et
Millau,
mais... bien avant avec le guide en me promenant dans toute la France.
Eh ben, génial. Alors, un petit mot d'abord sur ce bel événement qui s'est déroulé il y a un peu plus d'une semaine. Jacques Bally, vous avez eu l'idée, l'intention, et c'était assez louable, de fêter les 50 ans de ce guide, alors avec plus de 700 personnes, au Moulin Rouge, autre icône de notre vie culturelle du loisir français.
Absolument. Alors, on a le 4 novembre, hein, nous étions réunis, alors beaucoup plus que 700 personnes, puisque nous avons fini à 835 invités.
La vache ! Excusez-moi l'expression, hein, mais c'était impressionnant. J'y étais, j'avais la chance.
835 invités pour aller au Moulin Rouge, qui représentait pour nous un des grands symboles de l'art de vivre à la française. Mmh. Et ce mode de vie à la française, ce mode de vie à la parisienne.
Alors, mais un peu vu de l'extérieur. Alors, je m'explique. En fait, vous avez, avec un actionnaire russe, racheté ce guide Go et Millau, de l'équipe de Comcherizet, dont faisait déjà partie Marc Esquiré. Et donc, c'est un peu une vision. Nous, Parisiens, on l'a presque oublié, le Moulin Rouge. Mais vous, revenant de Moscou, avec cet œil tout neuf, vous avez eu envie de fêter la France telle qu'on la voit de l'extérieur.
Absolument. L'idée, c'était de dire, on met en permanence en avant notre gastronomie. J'ose espérer et croire que tout le monde se rend bien compte que la gastronomie française, qui est un des plus beaux véhicules de notre image de marque et de notre diplomatie à l'international, doit être mis en perspective avec d'autres valeurs de notre société. Et cette autre valeur au-dessus de la gastronomie, c'est l'art de vivre. Alors, le Moulin Rouge correspondait à l'ensemble de cette convergence entre ce que nous voulons être en mettant en avant cette merveilleuse gastronomie française et la joindre avec ce modèle d'art de vivre. Et comme vous le dites, mon cher Vincent, cet art de vivre et le Moulin Rouge est connu à l'international.
Et bien sûr.
Et pour nous, c'est un magnifique effet de levier.
Et c'est important pour le Go et Millau, nouvelle formule, hein, d'être connu à l'international. On sait qu'il n'y a pas de vie interne, intra-française, hein, pour les grands guides gastronomiques. Alors, un mot sur votre personne, Jacques Bally. Vous êtes un homme du sérail. Hein. On se dit, Ferniaud nous parle de Moscou. Est-ce que c'est un oligarque? Est-ce qu'il a fait sa carrière chez Gazprom? Non, pas du tout. Il a fait des études de commerce à Grenoble, Jacques Bally. Et puis, il est passé assez longtemps par le groupe Ducasse, hein, dont vous avez été, en fait, le patron du conseil et de la formation. Hein, et ça a été votre première vraiment expérience dans le milieu gastronomique.
Ah oui, on peut dire ça comme ça. Hein. J'ai rencontré Alain Ducasse en 1998. Et l'objectif de notre rencontre était orienté, axé sur la diffusion du savoir, l'enseignement et le transfert de connaissances intergénérationnelles sur les connaissances en cuisine. Je suis un passionné de transmission du savoir. Je suis un passionné de tout ce qui concerne l'école et l'éducation. Et à partir de là, j'ai bâti avec Alain Ducasse et avec son groupe tout un ensemble d'outils et de projets. Ça a duré une quinzaine d'années. Ensuite, je me suis transposé à la montagne dans un magnifique groupe.
Maison et hôtel Cibeu et les fermes de Marie, notamment, bien sûr.
Exactement. Une famille d'exception qui, à nouveau, représente un certain nombre de valeurs et de symboles de ce que nous sommes en termes d'hospitalité. Je crois qu'ils ont créé, la famille Cibuet, un groupe d'hôtellerie qui représente tout à fait ce dont on peut être fier dans notre pays, des valeurs d'excellence et des valeurs de culture.
Que vous continuez de prôner, ensuite chef et chef, et puis là vous partez donc en Russie, à Moscou, où vous avez la licence du Goemio, et le rêve naît dans votre esprit de racheter cette belle boîte, cette belle marque, qui est une belle marque française. Alors, cette belle marque française, Marc Esqueré, comment est-ce qu'elle est née ? Elle est née de la volonté de deux hommes.
Ils s'appelaient Henri Gault et Christian Millot et ils étaient tous les deux passionnés de gastronomie, de restauration. Parce qu'on peut être passionné de restaurant, parce que le restaurant, c'est une scène merveilleuse, c'est un théâtre. Et c'était un univers qui les attirait beaucoup.
Ouais.
Henri Gault a commencé à écrire dès la fin des années 50 et ils se sont retrouvés pour lancer tous les deux un magazine d'abord. Mmh. Et puis, c'est devenu un guide en 1972. Mais la marque a bien été créée en 1969, donc on fête le 50e anniversaire.
Alors, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont les inventeurs de ce qu'on a appelé la nouvelle cuisine et qui a été, enfin en tout cas, les plus grands promoteurs. Et c'était une révolution dans les cuisines dans les années 70.
Oui,
c'était balayer un petit peu toute cette vieille cuisine bourgeoise française.
Alors en même temps, oui, bien sûr, il y avait l'envie de faire la révolution. Mais malgré tout, Henri Gault et Christian Millot, comme d'ailleurs les grands chefs qui les ont accompagnés à ce moment-là, je pense notamment à Michel Guérard qui commençait à poindre dans son pot-au-feu
et
à Agnières.
Et qui était encore là, qui a fait un discours superbe
magnifique.
Au Moulin Rouge l'autre soir.
Magnifique.
S'attendait vraiment à ce qu'il soit là.
Une des grandes images de Gault et Millot, c'était de dire « Cette cuisine, elle va forcément évoluer et on va être les accompagnateurs, les artisans, voire peut-être les acteurs » de ce changement. Donc, ils ont donné les 10 commandements où il fallait alléger les sauces, etc. Mais ça voulait pas dire surtout rejeter tout ce qui avait été fait avant, parce que la tradition française, et on s'en aperçoit aujourd'hui, elle est extrêmement forte. Et la tradition française, c'est des sauces, c'est des associations. Et ils ont évidemment beaucoup accompagné cette cuisine avec des grands cuisiniers comme Michel Guérard, comme Georges Blanc et tant d'autres.
Bon alors, on vous oppose, et c'est bien naturel, pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas du métier, on vous oppose au guide rouge. Il y a toujours eu, en tout cas depuis 69, le guide rouge d'un côté et le guide jaune. Le Michelin et le Goemio. Et pour les chefs et pour la cuisine française, il a fallu toujours avoir un pied de chaque côté. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste de cette rivalité ou de cette compétition ?
Bah écoutez, Vincent, moi je crois qu'on devrait être très fiers en France d'avoir les deux principaux guides internationaux qui évaluent, qui mettent en avant et qui font la promotion de ce magnifique métier qu'est l'hospitalité, la restauration, le bien manger. On se bat toute la journée contre ces GAFA américaines qui, à travers un certain nombre de grandes dimensions et de prise en main d'un certain nombre de marchés à l'international, nous piquent des parts de marché ou réorganisent notre modèle sociétal. On a deux magnifiques entreprises, alors je ne veux pas parler au nom de notre compétiteur qui est le Guide Rouge, mais je considère que eux et nous avons une formidable responsabilité, une responsabilité pour justement protéger et mettre en avant cet écosystème. Et donc, il y a une concurrence, forcément. On est deux entreprises sur le même marché. Mais au-delà
de marque,
au-delà de cette concurrence, il y a surtout notre responsabilité de faire réussir la marque France à l'international dans l'univers de la gastronomie. Et eux et nous avons cette énorme chance. Eh bien, on est les GAFA de la gastronomie française.
Ah, ça c'est bien dit Jacques Bali. On aime cette émulation à la française dans le milieu de la gastronomie. Dans un instant, on continue à détailler, on va parler un peu du palmarès 2020 de ce guide Goemio. Des guides Goemio, je vous le disais à l'instant, restez avec nous, on va en apprendre un petit peu plus.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
Sud Radio, Place du Marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
De retour, place du marché. Je peux vous dire un truc, place du marché, ça cause. Mais c'est fait pour ça, justement, la place du marché. Avant d'aller faire son marché, on discute. Et on parle de quoi? On parle de belle cuisine. Et on parle ce matin du guide jaune, du guide Goemio, avec son équipe dirigeante, le président Jacques Bally, et le directeur des guides, Marc Esqueret. Et alors, on a de la chance parce que nous a rejoint, je vous dis pas encore qui c'est, on va faire un petit teaser, nous a rejoint le cuisinier de l'année dans le guide 2020 du Goemio. Et comme c'est un peu encore dans, on va dire dans la profession ça se sait, mais dans le grand public pas encore, je vous le garde au chaud 5 minutes. Bonjour cuisinier de l'année.
Bonjour monsieur.
Écoutez sa voix, peut-être vous allez reconnaître. On va pas faire un jeu, hein, parce qu'on pourrait faire gagner justement le guide jaune, mais tout va bien ce matin, en ce dimanche matin?
Magnifique.
Pas, vous avez pas commencé la cuisine encore?
Non, pas du tout.
Ah bah d'accord, ok.
Je suis en période hivernale.
On vous retrouve dans une seconde. On parlait juste avant la pause de l'histoire du Goemio avec Marc Esqueret. Ce guide qui a toujours été présent, hein, année après année, en revanche, le magazine, lui, a disparu.
Alors, le magazine a disparu d'une certaine manière.
Il a vivoté
oui,
un moment.
Mais ça a été un fer de lance qui a été extrêmement important. Autant de l'avènement du papier, où c'était très important d'avoir à la fois des belles photos, des images et des textes. Et puis, je dirais qu'il n'a pas totalement disparu, puisqu'on a une newsletter et on a des outils numériques.
On va dire que c'est le papier qui a tendance
à
disparaître.
Oui, voilà, c'est le papier qui s'étiole un peu.
Comment est-ce qu'on arrive, excusez-moi de vous poser la question, comment on arrive à trouver une économie viable sur un guide qui reste largement papier, justement, Jacques Bally?
L'économie, c'est le président.
Même si le numérique prend de l'importance, on aime bien l'avoir dans les mains, quoi, ce pavé.
Vous avez raison, Vincent. On aime bien l'avoir dans les mains, ce pavé, et ce pavé va continuer. On va continuer à imprimer le guide parce que un certain nombre de gens, des passionnés, des collectionneurs, des restaurateurs, vont garder ce document. Mais c'est plus un objet de collection. Et d'ailleurs, on va utiliser le mot objet pour ça.
Oui.
La réalité, parce que vous l'avez signalé, il y a une réalité économique. Cette réalité économique, il faut l'affronter. Le business model d'un guide gastronomique n'est pas quelque chose de facilement appréhendable pour le grand public. Donc, en quelques mots très simples, nous basculons en numérique, en tout digital.
Avec des petites applications pour nos smartphones, par exemple?
Ah ben absolument. L'application, nous avons l'application des restaurants, nous avons sorti tout récemment l'application des artisans. Il va y avoir un certain nombre d'outils à disposition, tant des professionnels que du consommateur final, qui leur permettront, au-delà de trouver et de se repérer autour de tout ce qui fait les merveilles des restaurants sur le sol français, et ben tout un ensemble d'astuces pour prendre une réservation, réserver une bouteille de vin ou tout simplement bénéficier d'un menu spécifique sur une table spécifique. Mais en tout cas, on vendra toujours et on proposera toujours une expérience. On ne sera pas là pour vendre des remises. Ça, c'est à d'autres personnes de le faire.
Alors, je disais tout à l'heure, la différence avec le guide rouge, c'est que vous ne vous intéressez pas qu'au chef, qu'à la cuisine. La large part est donnée aussi à toutes les équipes autour des chefs et des cuisiniers. Et ça, c'est bien. D'ailleurs, on va interroger le cuisinier de l'année. Alors, le cuisinier de l'année qui est avec nous. Hein, on continue un petit peu le jeu, je vous tease un petit peu, mais si vous nous écoutez. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de lui? D'abord, c'est un beau garçon qui vient de passer la quarantaine. Natif de Rouen, qui a vécu sa jeunesse dans les boucles de la Seine, un petit peu plus près de Paris, parent charcutier traiteur, ayant fait comme toujours, hein, des grandes maisons. Il est passé chez Michel Guérard également. Ça a été une révélation pour lui. Alors vous voyez toujours pas qui c'est? Un grand chef. Oh si, il a été chef de l'année du magazine Le Chef avant d'être cuisinier de l'année.
Vincent, moi je veux donner une indication, elle est pas de moi, mais je l'ai tellement aimé, j'ai pas pu la placer le soir au Moulin Rouge des 50 ans du guide Goemio. Il a la Manche dans la Méditerranée.
Formidable, j'aime bien l'idée de ces deux mers, effectivement, avec les boucles de la Seine entre les deux, hein, en montant par les fleuves. Eh bien c'est Arnaud Donquel, bonjour Arnaud Donquel.
Bonjour.
Arnaud, je vous ai vu... touché, je dirais, parce que vous étiez ému de recevoir ce titre de cuisinier de l'année.
Oui, mais je crois que n'importe quel chef qui reçoit ce prix, cette louange un petit peu, et ouais, c'est normal, même encore, hein, rien que d'en parler, bien évidemment.
Ça remonte.
Oui, on est avec ça, en fait. On démarre le métier avec ça. On démarre le métier avec le guide jaune, hein, bien évidemment. Et ça a fait rêver. Ça, voilà, on a regardé les confrères
ouais, bien sûr.
tous les ans.
En plus, vous avez
et
votre
puis,
bande...
vraiment, voilà, et puis sans... Je sais pas comment vous le dire, mais je pensais pas que ça me...
Ça vous arriverait ?
Ouais, voilà, vraiment, vraiment pas.
Bah, voilà. Pourtant, excusez-moi du peu, mais vous avez, comme je le disais, vous aviez été chef de l'année, il y a quelques années, hein, magazine Le Chef. Maintenant, vous êtes cuisinier de l'année. 5 tocs, 19 sur 20, qui est la note maximale hein, dans cette édition 2020. On va plus au 20 sur 20, au Gomillo. Hein. Ce 19 sur 20 et 5 tocs, c'est la grande note. Par ailleurs, vous êtes affublé de 3 étoiles dans le guide rouge pour votre vague d'or à l'hôtel Cheval Blanc, à Saint-Trope. Vous êtes en passe de faire, on va dire, le beau doublé hein, dont tout le monde rêve à la chasse à Paris. À monter.
En tout cas, une deuxième table d'expression.
Oui, une deuxième table d'expression, ça. Avec une vue imprenable sur le Pont Neuf, à ce qu'on nous dit, hein, puisque vous serez cet hôtel qui prend la place de la Samaritaine, et les Parisiens connaissent bien le Cheval Blanc, donc qui va être là sur le bord du Pont Neuf. Dites donc, c'est un peu votre année 2020, là, ce n'est qu'une
non,
annonce.
Non, mais c'est super, ouais, mais justement, ça monte trop haut, trop fort. On va avoir de la retenue, parce que voilà, mais. Moi, et puis il y a un truc qui, cette soirée-là, m'a beaucoup touché. Je crois que c'est la deuxième fois que j'emmenais mon épouse à une soirée, quand même, qui représente.
Ah, vous l'avez mise en avant. Hein.
Bah, la sachant-là, ça a été quelque chose d'extrêmement fort. Et il manquait mon papa qui ne pouvait pas être là parce que très malade. Parce que c'est. Les pages du Gomillo, il les a lues et relues depuis plus de 30 ans. Et. Une vraie passion pour lui, la cuisine. La cerise sur le gâteau était l'affection palpable de Michel Guérard, qui était là, et qui est quand même...
Qui est un peu votre père en cuisine.
Ouais, mais qui est le père fondateur de la cuisine nouvelle, hein, quand même. Enfin, je pense que Marc me... Voilà, je pense que sincèrement, c'est vraiment... Voilà,
alors...
Et définit bien aussi le Gomillo par rapport à ça, Michel Guérard. Il l'a bien exprimé dans son texte. Et vraiment... Tout ça mélangé a été vraiment, vraiment incroyable.
Arnaud Donquel, un petit mot. On parle évidemment de cette émulation. Moi, j'aime bien dire rivalité entre le rouge et le jaune. Pourtant, du côté des cuisiniers, il a toujours été bon d'avoir un pied dans le Michelin, un pied dans le Gomillo. Il n'y a pas de rivalité pour les chefs. Ils ont envie de briller des deux côtés.
Ils ont quelque part une... Voilà, ils informent des gens... Mais ils ont chacun leur identité.
Et qu'est-ce que c'est ?
Et je crois qu'il n'y a pas de rivalité, en fait.
La différence, c'est quoi ?
Je ne suis pas convaincu avec ça, en fait.
Vu de l'intérieur, Arnaud Donquel, vu du côté des chefs, c'est quoi la grande différence entre le fait d'être noté dans le rouge ou dans le jaune ? Dans l'expression, dans la façon dont ils racontent votre établissement, votre cuisine.
Quand on lit le Gomillo, il y a une expression de la maison dans laquelle
on raconte l'histoire,
on va mettre le pied quoi. Donc on peut connaître par le texte le personnage, les équipes, le lieu, voilà, avec une certaine modernité et aussi une découverte. Je crois que la force du Gomillo, c'est aussi d'aller dans la découverte. Voilà, et le guide rouge prend aussi plus son temps parce que voilà, il faut aussi dire que le guide rouge, économiquement, quand ils font passer aussi, amène à une économie différente, naturelle de la
table.
Vous
voulez dire que le Gomillo, il vous écoute, alors, le président et le directeur, là, ils se disent, bon, là, on est un peu dans les clous. Vous voulez dire par là que le Gomillo prend plus de risques et plus sur le terrain
le risque aussi du Gomillo est. Vraiment, on peut le dire, je pense que. Comment l'expliquer ? Je pense que le Gomillo, quand ils vont prendre plus de risques, parce que il y a moins de risques pour l'entreprise aussi. C'est-à-dire que si quand Michelin met une étoile, il naturellement
il vous fait changer d'économie.
Pas changer d'économie, mais naturellement il y a une influence qui est très marquée quand même. Faut l'avouer. Donc ils peuvent plus facilement si le Gomillo il y a une année plus ou moins bonne, ils vont pouvoir plus rectifier.
Michelin et se rattraper. Marc, qu'est-ce que vous en dites,
je sais pas, certaines personnes, mais je dis pas que je partage cette opinion, disaient toujours Guémillot découvre et Michelin consacre. C'est une expression.
D'ailleurs, vous avez, je le signale, parce qu'on dit les guides Guémillot, vous avez sorti notamment cette année le 109. Alors, c'est un jeu de mots, hein. 109, comme le chiffre 109, c'est un peu justement l'avenir de la haute gastronomie, des grands chefs du futur.
En fait, d'une certaine façon, c'est concrétiser complètement l'ADN de Guémillot. Chaque année, on a 400 à 500 nouveautés. Chaque année, on détecte des jeunes talents, on met en avant des grandes demain, qui sont tous des jeunes chefs en devenir. Ont été grandes demain, Jean-François Piège, Arnaud Lallemand, et tant d'autres, Pascal Barbeau, etc. Donc cette année, on a voulu justement matérialiser ces découvertes de Guémillot par un ouvrage unique qui s'appelle Le 109, parce qu'il y a 109 tables et que ça représente le 109 de Guémillot.
Vous mentez, c'est la gueule de bois. Non, la langue de bois, c'est pas bien. Non, ça s'appelle 109 parce que c'est le mot le 109 qui a donné 109 tables. C'est pas l'inverse.
Oh, écoutez, ça doit être un hasard. On est tombé juste sur 109 tables et on s'est dit, tiens, c'est
une bonne
idée.
Marc, tu as pris la main dans le sac. Moi, je suis d'accord avec Vincent.
Vous êtes d'accord?
Absolument, absolument.
Là, on lui a mis un... Non, mais c'était... Et j'adore ce jeu de mots, d'ailleurs. Je trouve ça très intelligent. Et puis, 109 tables, 109 restaurants, ça reste visitable.
Et quand vous regardez la carte de France, c'est complètement réparti.
Il y a un maillage.
Vous pouvez vous promener en voiture et dire, tiens, qu'est-ce que Guémillot m'a trouvé, et peut-être ce sera une seule table dans le département où vous serez, mais peu importe finalement, parce qu'elle est excellente, et puis vous apprendrez plein de choses.
Alors, heureusement, Arnaud Donquel est avec nous, le grand chef de Saint-Trope, bientôt Paris, qui est lui totalement indépendant et qui va nous aider dans le débat qui va suivre. On se retrouve tout de suite après la pause, parce qu'il y a un métier qui fait rêver, qui fait fantasmer nos auditeurs, celui d'inspecteur de guide. On dit des gars qui sont payés pour aller manger les meilleures choses toute l'année, ça c'est quelque chose. On va savoir en réalité comment ça se passe.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Mesdames et messieurs, chers amis, ce matin on est tout en jaune ici à Sud Radio. C'est pas commun, parce que d'habitude on est en rouge et noir, les couleurs de la maison. Mais pourquoi en jaune? Parce qu'on reçoit l'équipe dirigeante du guide Guémillot, des guides Guémillot. Jacques Balil, président, Marc Esqueret, le directeur des guides. Et on a la chance d'avoir avec nous un très grand chef, puisqu'il est cuisinier de l'année de l'édition 2020 du guide Guémillot. C'est Arnaud Donquel, le tropézien un peu normand quand même.
Et parisien en ce moment.
Et parisien, c'est pour vous dire, il se balade le chef. Alors, on parlait à l'instant, évidemment, du sentiment des cuisiniers, et Arnaud Donquel se faisait un peu l'ambassadeur de ses confrères et consoeurs, sur la façon dont il voit les différents guides. Alors, il y a un métier qui vous fait rêver, qui vous fait fantasmer. Je le sais, parce que moi, je l'entends toute l'année. Et je ne suis pas inspecteur de guide, ni vraiment critique culinaire, qui consiste à noter les restaurants. Moi, je ne suis que journaliste culinaire, ce qui est autre chose. Mais c'est vrai que le critique, ça fait rêver. L'inspecteur du guide, ça fait rêver. On se dit, des gars qu'on paye pour aller manger. C'est pas merveilleux? Si, c'est vrai, quelque part, c'est assez merveilleux. Sauf quand on doit faire 5 restaurants dans la journée. Et je me tourne vers Marc Esqueret. Racontez-nous un peu, c'est quoi, en fait, la réalité du métier d'inspecteur?
Que c'est pas un métier. Que c'est d'abord de la passion, que c'est une activité, et je dirais presque une activité de loisir. Et en général, quand on prend quelqu'un sur un dossier, on reçoit à peu près 400 dossiers par an, et donc les places sont rares et chères, je dirais. La première chose que je dis, c'est Guémillot va participer à votre loisir. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont cooptés, une fois qu'ils ont passé le stade de la formation...
Comment ça marche? Vous recevez des demandes, en fait?
Oui, on reçoit des demandes spontanées. On fait d'abord 2-3 petits tests. Si ces 2-3 petits tests sont concluants en termes de « je sais manger, je sais écrire et je sais écrire dans des cases », à ce moment-là, on passe à l'étape au-dessus, et qui consiste en une formation. Et à l'issue seulement de cette formation, on décide ou pas de confier un certain nombre de tables.
C'est aussi dur que de rentrer au Club des 100, quoi.
Parlons effectivement de l'activité.
Oui, je voudrais savoir quand même, est-ce qu'avant de laisser Jacques Balil devenir président des Guémillot, est-ce que vous lui avez fait passer un petit test à table?
On a passé pas mal de petits tests à table et on continue avec beaucoup de plaisir.
et je redemande des tests. Hein.
Formation continue.
Sur une formation continue permanente.
Hein. Oui, c'est vrai que vous mettez le nez dedans quand même. Bah, j'espère, hein, je vous le souhaite. Donc, une fois qu'on a passé, qu'on a été en quelque sorte accepté, c'est là que le boulot commence.
Alors, c'est là que le boulot commence. Et puis, c'est un boulot... Vous dites, c'est bien d'être payé à manger. Imaginez, par exemple, que vous soyez payé à manger toute la journée. Oui, non, ça devient difficile. Bah, quand il faut se lever à 7h.
On est responsabilisé voilà. dans un labo de production,
exactement,
à ce moment-là.
Exactement, voilà. Et bon, évidemment qu'on ne leur demande pas de faire 4 repas par jour ou 5. Bah, quoique, certains passionnés, parce que justement, c'est encore une fois une activité de passion, bah, ils sont à Lyon, ou ils sont à Toulouse, ou ils sont à Bordeaux, et ils disent, ah oui, mais là, il y a un truc qui vient de s'ouvrir, je devais faire telle table, je peux aussi faire l'autre, un petit peu, je dois pouvoir la faire.
Voilà. Ils sont demandeurs,
c'est des gens, et justement, c'est un peu le critère numéro un, c'est des gens qui sont connaisseurs, qui sont passionnés.
Et qui ont l'envie.
Qui ont envie, et certains étaient là avant moi. Donc il y en a qui ont 25 ans d'enquête Goemio, et c'est vrai que cet esprit de communauté, cet esprit de passion, c'est le critère numéro un.
Je suis assez sidéré par le fait que vous gardez relativement la ligne, Marc Esqueret. Non, on trouve qu'on n'est jamais assez mince, mais franchement, vous n'êtes pas obèse, et pourtant vous mangez beaucoup.
C'est une discipline.
Faut choisir aussi les tables que l'on fait. D'ailleurs, combien de restaurants sont répertoriés cette année dans le guide jaune?
3200 dans l'impression, et sur le site 5000 à peu près.
Ça veut dire que vous avez une grosse équipe d'inspecteurs?
Alors on a une équipe en fait assez ramassée, et là pour une raison très simple, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous avez 100 inspecteurs, vous avez plus de cohérence, vous les contrôlez beaucoup moins. Mmh. Il se crée des espèces de baronnies parce que vous dites, bon, bah, toi, t'es dans tel coin,
et
vas-y,
puis,
fais ton coin.
Tout le monde note pareil, évidemment. Voilà. Donc, hein, au résultat.
Donc, le compliqué, c'est ça. Et pour être cohérent et pour avoir des rapports d'inspection qui soient égaux, il faut d'abord faire effectivement de la formation continue. Ouais. Il faut les réunir et il faut surtout bien les connaître. Et on a justement cette chance d'avoir un socle très solide d'une quinzaine, une vingtaine d'inspecteurs qui augmentent. Alors, tous les ans, il y en a, on va dire, à peu près le double qui interviennent. D'accord. Mais ce socle de très fidèles, on les connaît vraiment très bien. Et je peux envoyer chez Arnaud tel ou tel inspecteur. Je sais que le rapport sera nickel. Oui. Et je suis tout à fait serein par rapport à ce qui revient.
Parce que vous l'avez fait longtemps avant aussi, hein, Marc Esqueret, avant de diriger les guides. Hein.
Je le fais encore, et bien sûr. Et je viens toujours vérifier.
Oui, c'est
le travail de vérification, c'est ardu, mais un plaisir aussi.
Méfiez-vous, si vous voyez un mec à quatre pattes qui récupère ce qui tombe de l'assiette au restaurant, c'est peut-être Marc Esqueret. Hein. Arnaud Donquel, je sais que ceux du guide rouge, ils sont extrêmement discrets, en général. Je sais qu'il y a toujours des appels entre chefs, attention, j'en ai eu un qui est passé, etc. Est-ce qu'au Goemio, c'est pareil? Est-ce que ce sont des inspecteurs discrets? Est-ce que vous les reconnaissez? Est-ce que vous les connaissez?
Non, franchement, c'est compliqué. Il y a juste quand on voit la bouille demain. Attention!
C'est ça.
Voilà, mais après, on sait que ça ne fait pas partie du jugement. Et puis, de toute manière...
Et il faut savoir qu'on ne peut pas changer. Quand on est chef, au moment de l'envoi, on ne va pas changer sa cuisine et son assiette.
Je pense même que c'est pire parce que...
On veut trop bien faire.
En fait, à un moment donné, on en ferait trop et on surjouerait. Et on serait, en fait, c'est la pire des choses, je crois. Mmh. On cacherait la base même de notre métier, on la gâcherait. Quoi. C'est la sincérité, c'est l'instant T. Enfin, voilà, honnêtement, je pense que c'est... Au contraire, ça serait plus défavorable. Je ne pense pas que la... Parce que ça met de la pression et je pense que c'est plus défavorable.
Et puis par définition, le chef est dans sa cuisine, donc a priori c'est pas lui qui voit rentrer en salle. En revanche, le directeur de salle ou le directeur du restaurant qui fait le service, lui, il voit arriver et parfois il parie sur l'un ou sur l'autre, il se méfie. Enfin, son métier c'est l'accueil. Et justement, on a au téléphone avec nous un fameux directeur qui a été mis en lumière par le guide 2020, c'est Serge Châle à la Fourchette des Ducs à Aubernais. Bonjour Serge.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous en ce beau dimanche. Alors Serge Châle, on disait, c'est vous qui êtes en première ligne normalement pour reconnaître les inspecteurs. Alors est-ce qu'ils sont aussi discrets que ça, les inspecteurs du Goemio?
Oh, réellement, réellement. Comme disait Arnaud, en dehors de Marge, nous les connaissons pas. Donc,
c'est pour ça que Marc est grillé.
Heureusement.
Heureusement.
Alors, Serge, je suppose que oui. Vous avez été heureux d'être récompensé par, on va dire, pour faire simple, directeur de salle de l'année, quoi. Oui. C'est-à-dire mettre au devant, en lumière, les métiers du service en salle, qui sont trop souvent délaissés au profit des cuisiniers.
Oui, effectivement, c'est une profession qui est en manque de reconnaissance aujourd'hui, et c'est en ce sens-là que, pour ma part, je suis fier d'être quelque part un ambassadeur de cette profession aujourd'hui par ce titre. Et je remercie réellement le Guide Goemio de mettre également la lumière sur notre profession.
Bah, bien sûr. Alors, il faut dire que vous êtes aussi aidé par le fait que vous travaillez dans une belle maison. Le chef Nicolas Stam, qu'on aime beaucoup, c'est un très grand chef. Et donc, voilà, il y a une force motrice. C'est quand même plus facile que d'être un grand directeur de salle dans un boui-boui, on est d'accord.
C'est vrai. Donc, avec Nicolas, nous formons un duo depuis plus de 20 ans. Et j'ai eu de la chance, quelque part, que Nicolas me permette d'apporter, on va dire, ma vision d'une collaboration que je pense qui est intelligente et constructive entre la salle et la cuisine. Car c'est pas toujours peut-être gagné avec les chefs. Et j'ai réussi, je pense, ici à la Fourchette des Ducs d'apporter en fait ma vision.
Ben oui, votre patte à vous aussi. Oui. C'est important en salle parce que la salle, c'est l'ambassadeur et le storyteller, on pourrait dire, celui qui raconte l'histoire de la cuisine du chef.
Oui, il y a ce rôle-là qui est important et il y a un rôle qui va bien au-delà de la technique. Pour moi, le plus important dans les qualités d'un directeur de salle ou des personnes qui travaillent en salle, c'est d'avoir un travail de savoir-être, si vous voulez, de perception du client, de sensibilité, d'empathie.
D'empathie, presque de psychologie, quoi. Hein.
C'est exactement ça, et c'est pour ça que je pense qu'on a un rôle à jouer, un rôle de lien entre le client et le chef.
Bien sûr.
Dans mon cas à la Fourchette des Ducs, il est important pour moi de montrer à la cuisine quelque part, de donner le rythme de la soirée, du repas, car c'est c'est en sortant, en ce sens-là, en donnant, on va dire, le tempo qu'on trouve également notre place.
Alors Jacques Bally, vous entendez Sercha qui fait un plaidoyer fantastique pour son métier, pour la partie de son métier. Vous êtes sensible, vous j'imagine que oui, mais avec la vision du Guide Goemio, on se dit, c'est vrai que beaucoup de guides et de journalistes et de critiques culinaires ne font la part belle qu'à la cuisine, comme si tout le décor était dans l'assiette, et on oublie trop souvent le service, un peu le décorum à la française qui fait partie vraiment de l'expérience au restaurant.
Absolument. Et je reviens sur ce que disait Serge. Là, ce qui est important, c'est que il n'y a pas dans le grand soir de notre rendez-vous au restaurant, ce n'est pas un pic, ce n'est pas un paroxysme parce qu'on a franchi la porte. En fait, on est plein de sommets de petits moments d'émotion ou de grands moments d'émotion. Mmh. Et quand on y réfléchit bien, c'est une succession pendant 90 minutes de moments d'émotion. Et cette série de moments d'émotion, on la vit par étapes qui sont et qui concernent tous les métiers. La très forte personnalité de l'assiette va correspondre, en fonction d'un dîner à un plat, deux plats, cinq plats, à ces moments où cette très forte personnalité de l'assiette va nous donner une émotion. Mais quand le sommelier va venir partager avec nous ses connaissances sur un accord mets et vins, qui va nous le servir, qui va nous l'expliquer, on a des moments d'émotion. Si on est sensible à ces moments-là, on a la chair de poule et on se dit « je suis en train d'apprendre et je suis en train de prendre du plaisir ». Quand le directeur de salle, quand l'ensemble des personnes au service vont par le ton de leur voix, par la manière au rapport à l'autre, dans leurs explications, dans les détails, dans la présentation des artisans qui ont participé ou chez qui on s'approvisionne, c'est cet ensemble, ce fil conducteur qui vous donne... Voilà, je vous en parle et en même temps...
Vous le savez, après votre passage chez Ducasse, où vous avez dû répéter ça éternellement aux élèves, en fait, de...
De l'école, absolument. Et d'ailleurs, écoutez, on a créé cette année le prix du chef-d'œuvre, en tout cas le carré magique. Et comme vous pouvez le voir dans le guide de cette année... Tous les établissements 4 et 5 TOC voient apparaître maintenant le carré magique, c'est-à-dire le nom, le prénom des 4 personnes qui travaillent dans le restaurant, en pâtisserie, en service et en sommellerie.
Alors je le dis au passage, c'est Louis XV à Monaco, donc qui fait partie évidemment du groupe d'Alain Ducasse.
Vous n'y êtes pas passé, vous, au Louis XV, ah oui. Arnaud Donquen, ah oui, il semble. Hein.
Mmh. Ah oui, c'est
avec ça.
Avec
Monsieur Routy. Ah bah, bon moment. C'est
toute la boucle est bouclée. Merci Serge d'avoir été avec nous au téléphone. Je vous laisse retourner à votre travail, et Dieu sait qu'il y en a. Hein. Et surtout le week-end, parce qu'on aime bien hein, aller au restaurant le dimanche.
Merci Serge, à bientôt.
Et encore bravo pour votre titre hein, de directeur de salle de l'année.
Merci à tous, bon dimanche.
Vous savez quoi, on va se retrouver dans quelques secondes hein, pour continuer à détailler un petit peu ce qu'on trouve à l'intérieur de ce guide. On va parler aussi d'une nouvelle initiative qui a été de sortir les sages, hein, les grands chefs un peu du guide en leur donnant une place prééminente hein, de vrais sages de la gastronomie française. Et puis on parlera aussi de l'avenir du guide. Eh oui, ah bah dites donc, on est en 2020, mais c'est pas fini, c'est loin d'être fini à tout de suite.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Eh bien, nous revoici sur notre place du marché avec nos amis du guide jaune, le guide Gomillo, les guides Gomillo. Je dis toujours le, moi, bah, parce que bah, c'est générationnel, hein, j'ai l'âge que j'ai, bien entendu. Et puis, un chef beaucoup plus jeune que moi, c'est Arnaud Donquel, très grand chef de Saint-Tropez, de la Vague d'Or, qui est le restaurant de l'hôtel Cheval Blanc. Cheval Blanc, c'est une marque d'hôtel, hein. D'ailleurs, oui. L'hôtel pour lequel vous allez également cuisiner à Paris, hein, qui oui. sera à la place de la Samaritaine, ça parle plus aux Parisiens.
Quai de Seine,
sur le Pont Neuf, sur le devant du Pont Neuf, et bien ça s'appelle aussi le Cheval Blanc, mais Cheval Blanc Paris.
Cheval Blanc Paris.
Et ça, c'est prévu pour le printemps, c'est ça?
Voilà, mai, je pense, avril-mai, voilà.
Ouais. Pourquoi les travaux, ça prend toujours du retard? Surtout que ça fait un moment hein, qu'il est fermé, la Samaritaine. Ouais. Hein. Donc on a hâte, comme Parisien, de voir rouvrir ce bel endroit avec Arnaud Donquel et son titre de cuisinier de l'année au guide jaune, accroché à la ceinture et au-dessus du piano. Et puis avec nous, vous le savez, si vous avez suivi le début de cette émission, nous avons Jacques Bally, le président du Gomillo, et Marc Esquéré, qui est le directeur des guides. Alors un petit mot justement, puisque moi j'arrête pas de faire le passage de guide à des guides, du pluriel au singulier et du singulier au pluriel, en dehors du guide jaune et de celui dont on a parlé, le 109, hein, qui est un petit guide consacré aux forces vives de la, on va dire, de la jeunesse gastronomique française. Il y a d'autres guides. J'ai vu un guide des champagnes, j'ai vu un guide des rhums. C'est la nouvelle mouture, c'est la nouvelle façon de faire au Gomillo.
Je vais peut-être laisser Jacques préciser, mais il y a toujours eu un guide du vin, par exemple, pendant très longtemps.
Ouais,
il n'existe plus.
C'est-à-dire
qu'on ne fait pas tous les vins de France, mais on fait encore le champagne. Mm-hmm. Ce guide du rhum, bah, il est avec nos amis de Gomillo Antilles, et puis d'autres produits qui vont forcément arriver. Le 109,
c'est un
exemple.
Parce qu'une équipe pure antillaise.
Tout à fait.
Ah, ça c'est bien. J'aime bien l'idée.
Hein. Et oui, Vincent, le guide Gomillo est présent aujourd'hui dans 20 pays. Alors, vous me direz, les Antilles,
c'est la France.
Mais on a souhaité dédier une équipe à cette zone géographique. Et dans le cadre de Gomillo Antilles, qui vient de sortir son guide cette semaine lui aussi, nous avons développé la partie Rhum. Pourquoi ? Ben parce que tout ce qui est bon à boire et à manger, nous avons vocation à le faire savoir et à le faire connaître. Et alors, on parlait du guide champagne. La marque champagne est une des plus belles marques en termes de communication et surtout en termes de reflet de notre art de vivre. Le champagne...
C'est festif.
Nous avons en France un produit qui est une référence mondiale dans le plaisir de vivre et le plaisir de boire et le plaisir d'accommoder des moments de festivité. Alors, nous avons le guide champagne, qui est la sélection de 400 domaines, et dedans, classé par ordre alphabétique, on ne met pas en avant un grand ou un petit domaine, c'est un classement alphabétique, et chacun pourra y venir faire son marché, son appréciation, s'y intéresser, et non pas plonger directement vers une marque de référence.
Non. Jacques, j'ai plongé, moi, dans le guide du Rhum, pas dans le tonneau, hein, mais directement dans le guide. Très honnêtement, lorsqu'on regarde, on voit que c'est assez exhaustif. On aurait pu se dire, équipe antillaise française, ils se sont limités au rhum agricole de Martinique, d'abord, de Guadeloupe, puis des îles autour. Pas du tout. Il y a beaucoup de rhum et des rhums de la Caraïbe et même au-delà, Amérique centrale.
Alors, je crois que les grands...
C'est tous les rhums. C'est les grands rhums.
Même si on peut considérer que 80% de la notoriété des rhums dans le monde serait concentrée sur la partie anti-française, il en reste pas moins vrai qu'il y a maintenant un certain nombre de produits qu'on retrouve et de grande qualité.
Savoir
donc
faire,
l'objectif,
ouais.
L'objectif, c'était d'être le plus exhaustif possible. Et je crois que c'est un travail qui a merveilleusement réussi. Bon, et alors, pour la suite, eh ben, sachez quand même que cette année, le guide des artisans, et nous allons faire la promotion d'un certain nombre de métiers, comme probablement le guide des 250 plus belles boulangeries de France. Où,
ah, génial.
Voilà, et on va mettre en avant, dans le cadre de ce que nous faisons souvent, la mise en avant de ces métiers artisanaux qui nous redonnent du plaisir au quotidien. Aujourd'hui, on est dimanche, on va inviter nos mamans, nos parents, nos grands-parents. Et ben, j'espère qu'on a tous été acheter du bon pain frais dans une boulangerie.
Ah oui, moi c'est pas encore fait, j'irai après l'émission.
Eh bien voilà.
Alors, autrement dit, l'avenir est dans la gamme. Il y a plus un guide jaune, il y a des guides de différentes couleurs, toujours sur la marque Gomio.
Alors toujours de couleur jaune. La marque
un peu, quand même, hein.
Et l'objectif, c'est de faire la promotion de tous ces talents qui font justement dans ce que nous appelons les itinéraires gastronomiques que nous allons mettre en place, qui correspondent comme au GR, hein, GR7, GR20, ben, les itinéraires gastronomiques, c'est le reflet de tout ce qu'on trouve de bon dans un beau village français. Un boucher, un poissonnier, un fromager, un boulanger, ben, tous ces gens qui nous donnent du plaisir à table le dimanche et les autres jours. Eh bien, on va les mettre en avant, on va les faire connaître et on va essayer de faire déplacer un maximum de gens jusqu'à ces très belles destinations.
Vous avez bien fait hein, de partir en Russie. Ça vous a redonné une vue macroscopique de la France. Non, mais souvent, quand on est à l'intérieur, quand on reste en France, on voit plus ce qu'on a à disposition. C'est comme si vous étiez revenu avec du sang neuf, vous aussi.
Eh bien, je suis heureux que cette très belle famille russe nous ait donné les moyens de pouvoir racheter le guide et de pouvoir assurer cette belle promotion de la gastronomie française en France et à l'étranger, parce que s'il n'avait pas été là, eh ben, les banques françaises et peut-être les entreprises ou les partenaires français ne nous avaient pas suivis.
Il faut parfois
donc,
un regard extérieur.
Merci à cette belle famille russe.
Ouais, un regard extérieur comme les nombreux touristes qui peuplent les restaurants de la haute gastronomie française, dont celui d'Arnaud Donquel à Saint-Tropez et puis bientôt à Paris, parce que c'est important la clientèle étrangère de leur donner une belle notion de ce qu'est la France à table.
Oui, oui, ça soit une carte postale un peu d'une région, sincérité des hommes.
Et puis alors lui, il est normand méditerranéen parisien, c'est une nouvelle nationalité. Ouais. Merci Arnaud Donquel dans votre emploi du temps extrêmement chargé d'être venu nous rendre visite, tout auréolé de son titre de cuisinier de l'année au guide Gomio 2020. Merci Marc Esqueré, directeur
Vincent.
Des guides, ça c'est une tâche. Hein. Et il trouve encore le temps d'aller au restaurant, il nous l'a dit tout à l'heure, hein, pour tester un petit peu ce qui se fait sur les tables. Et merci à Jacques Bali, longue vie au guide jaune. On a compris que ça restait jaune, c'est le plus important, ça aide à retrouver à l'intérieur des librairies.
Merci
mes amis, on va immédiatement, avant de se quitter, faire un petit tour du côté du Sud-Ouest, hein, parce qu'on parle bonne cuisine et Dieu sait que ça manque pas dans le Sud-Ouest. On va partir par le téléphone du côté de Samatan. Samatan dans le Gers, pays de l'Armagnac et pays
du foie gras
et du canard, bien entendu, Marc Esqueré. Et je suis en ligne avec Carole Daignan. Bonjour Carole.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Merci de prendre un petit moment ce dimanche pour nous répondre. Parce que j'ai vu passer une petite information, ça va être la fête. Ça va être la fête dans le Gers le week-end prochain, les 22, 23, 24. À Samatan, ça va être le salon Gascon à table.
Oui, tout à fait.
Alors,
donc on prépare à tout ça.
Alors vous êtes bénévole, ce qui est formidable. Je trouve c'est génial. Vous prenez tous sur votre temps pour faire vivre votre village et votre région. Et alors, il va y avoir notamment des ateliers de cuisine gersoise, j'imagine.
Oui, alors tout à fait. Alors on a des ateliers avec Olivier Andrieux, donc qui est un chef local de la table d'Olivier à Saint-Matan, qui va nous présenter, en fait, qui va travailler le foie gras, qui fait des démonstrations culinaires. On a des ateliers pour les petits chefs parce que c'est important aussi de.
Alors, petits chefs, on n'aime pas trop ça hein, dans les bureaux, mais à table ça va.
À table c'est bien. Voilà, pour les enfants donc c'est donc une de nos bénévoles qui animera ces ateliers. Donc les enfants iront chercher sur les stands. Donc on aura 55 exposants gascons.
Ah, génial,
donc,
génial.
C'est super.
Et puis, alors, j'ai vu que le canard est sur l'affiche, donc évidemment, hein, on s'en doute, c'est l'emblème de votre département et de la région. Donc, je suppose qu'on va goûter des foie gras.
Oui, bien sûr. Alors, on a déjà commencé, en fait, mercredi 13 novembre à goûter
génial.
Des foie gras.
Génial.
On a, donc, on avait le concours départemental du meilleur foie gras. Alors,
ah, super.
On a pu déguster.
Et alors, on pourra aller regoûter sur le salon, alors, la semaine prochaine?
Certains, oui. On peut en retrouver sur le salon.
Ah, voilà. ça me plaît bien. Puis, il y a un homme que j'aime beaucoup, qui est un peu, un emblème aussi de la gastronomie du Gers. C'est André Daguin. Il a donné son nom à un trophée. Vous pouvez nous en dire un mot?
Oui, bah tout à fait. Alors Monsieur Daguin, donc voilà, qui est un fidèle de notre salon. Alors en fait, tous les ans, on organise un concours. Donc c'est un concours des écoles hôtelières et de sommellerie. Donc il y a 5 binômes cuisiniers sommeliers qui s'affrontent. Alors sur un produit donné. Alors là, c'est le poulet fermier gersois.
Eh ouais.
Et donc voilà, ils ont un temps donné pour nous préparer une belle assiette.
Ah, voilà. Écoutez, c'est formidable, Carole. Ça donne un petit peu envie, hein, mais le Sud-Ouest, ça donne toujours envie. Dès qu'on parle de cuisine et de produits dans le Sud-Ouest, on a envie de descendre, vous imaginez bien. Alors, on rappelle, c'est le salon Gascogne à table à Samatan, qui est quand même une capitale du Gers, hein, il faut bien le dire. Le 22, 23, 24, vendredi, samedi, dimanche, c'est ça?
C'est ça, oui, tout à fait. Voilà.
Ok, et vous serez là? Si je veux goûter du bon foie gras et que je passe par là, vous m'indiquerez alors?
Ah, mais bien sûr, on sera ravis de vous recevoir.
Merci beaucoup, Carole. On vous souhaite un très beau salon dans le Gers.
Merci. Et
à la semaine prochaine, alors. Hein, passez-moi un coup de fil si j'ai pas pu descendre.
Oui, à très bientôt. Merci beaucoup.
Voilà, mes amis. Merci à tous d'être venus faire votre marché avec nous sur Sud Radio. On se retrouve la semaine prochaine à 10h. Cette fois, nous allons nous intéresser à un de nos mauvais penchants. Eh oui, ça existe aussi, le gaspillage alimentaire. Et on va inviter ceux qui trouvent des solutions à ce fléau de notre société de consommation, enfin, ou je dirais de surconsommation, afin de tous nous aider à, ben, je dirais, aller dans le bon sens, hein, celui d'une consommation responsable. Oui, responsable, ça peut pas faire de mal. À dimanche prochain, 10h, vous connaissez l'adresse ? C'est Place du Marché.
Sud Radio, Place du Marché, dimanche 10h-11h.
Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.